France Inter, le 18-20.
Le feu n'est pas éteint, même si les lances à incendie sont sorties, si vous me passez l'expression. 11 jours que les gardiens de prison montrent leur colère et que les blocages commencent à rendre les détenus, les familles aussi plus que nerveux. Ça a commencé, vous le savez, par une agression à la prison de Vendin-le-Vieil, mais depuis, les revendications largement ont dépassé les murs de cette enceinte-là. Sur la table, il y a plus de gardiens, il y a plus de place, il y a une meilleure évaluation des détenus radicalisés, il y a une meilleure prise en charge aussi des plus dangereux. Et on en est là avec des syndicats qui, en l'état, disent non. C'est le cas de la CGT et de FO en tout cas, mais au fond, ce dont on parle, c'est d'une profession qui se sent laissée pour compte, une prison en France qui connaît des problèmes récurrents qu'on a bien de la peine à régler. C'est de tout cela dont il est question ce soir avec nos invités et avec bien sûr vos questions. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Alain, c'est vous le premier. Bonsoir Alain, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Allez-y Alain, on vous écoute.
Oui, à Agen, où j'habite, il y a une école, un centre, un institut de formation de ces métiers de gardien et autres du milieu pénitentiaire. Alors, je voudrais savoir comment on rentre dans cette profession, quelles sont l'origine un peu de ces jeunes gens et jeunes filles qui souhaitent rentrer dans cette profession, et qu'est-ce qu'ils espèrent de leur métier, l'évolution du métier et leur propre évolution à eux dans ce milieu qui doit être très très difficile. Parce que nous, à Agen, on ne vous connaît pas, on ne fait pas de visite du centre, il n'y a pas de journée du patrimoine historique pour visiter vos établissements.
Eh ben,
expliquez-moi.
Eh ben, on va vous expliquer, puisque vous avez ce qu'il faut pour répondre à cette question autour de la table ce soir. Alain, au téléphone sonne. Aurélie Pascal est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice adjointe du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Vous êtes représentante régionale du SNDP, le syndicat national des directeurs pénitentiaires. Christophe Dorangeville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes surveillant secrétaire général de la CGT pénitentiaire. Et puis Youssef Bardre est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du ministère de la Justice. Et c'est vrai, c'est à vous que je vais m'adresser directement, Christopher Dorangeville. C'est une profession qu'on connaît peu, qu'on voit pas en fait, qu'on voit jamais, puisque vous êtes tous dans les prisons. Il y a cette interrogation d'Alain, qu'est-ce qui motive pour devenir gardien de prison? Est-ce qu'on est motivé pour être gardien de prison ou est-ce qu'on y arrive presque par hasard?
Alors je pense que c'est plutôt par hasard. Clairement, c'est pas un métier à vocation. Hein. Quand on est petit, on rêve d'être policier, on rêve d'être pompier, on rêve rarement d'être surveillant pénitentiaire. Et c'est bien là le problème. Clairement, aujourd'hui, nos collègues qui sont sur le terrain sont arrivés là parce que derrière, ils avaient une volonté de rentrer dans la fonction publique. Et donc, c'est ce qui les a amenés à tenter plusieurs et différents concours. Et celui de l'administration pénitentiaire étant peut-être un peu plus simple et attirant un peu moins de monde. De fait, ils sont arrivés.
Vous, par exemple, c'est comme ça que vous êtes entré dans la pénitentiaire?
Moi, clairement, voilà, c'était j'étais adjoint de sécurité, hein, donc c'est une profession avec laquelle forcément on rentre en interaction. À la suite d'éléments que j'ai pu échanger avec les professionnels qui exerçaient à l'époque, m'ont attiré vers la profession.
Et est-ce que vous regrettez, sincèrement, si vous aviez pu choisir autre chose, vous l'auriez fait? Aujourd'hui, est-ce que vous vous dites j'aurais dû choisir autre chose ou pas?
Non.
Alors maintenant, vous êtes syndicaliste, vous avez mis une autre couche à votre métier, si je puis dire, mais sincèrement, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit j'aurais pas dû y aller?
Non. Clairement, c'est un métier à relations humaines, donc c'est un métier qui forcément porte de grandes valeurs. C'est un métier très très compliqué. Les conditions de travail sont délétères aujourd'hui, donc c'est pour ça aussi qu'on est devant les portes et on souhaite clairement arriver à de meilleures conditions de travail. Mais c'est un métier avant tout humain et c'est un métier pour lequel derrière on est fier quand même d'y être. Quoi.
C'est important cette introduction. On va parler évidemment de ce qui se passe dans les négociations, de ce qu'on essaye d'obtenir de part et d'autre. Votre avis là-dessus, Aurélie Pascal, vous qui êtes directrice adjointe d'un centre pénitentiaire, c'est pas si simple, j'imagine. De travailler avec des gens, comme le décrivait très bien Christopher Dorangeville, au départ, on n'a pas forcément envie d'être gardien de prison dans sa vie.
Non, alors je crois qu'il y a quand même un distinguo à faire. Effectivement, ce serait ne pas être honnête que dire on rentre dans l'administration pénitentiaire par vocation, notamment pour le personnel de surveillance. Après, je pense qu'on y reste par vocation, et c'est le cas de beaucoup d'agents. Actuellement, je suis en recrutement de premier surveillant, et j'ai devant moi que des gens qui ne veulent pas quitter l'administration.
Comment on fait pour les faire rester, justement, pour leur dire, voilà, ça c'est un vrai métier intéressant?
Donc, parce que l'administration pénitentiaire s'est modernisée. Un surveillant, actuellement, Bien sûr, la majorité sont en détention, mais il y a d'autres missions. Il y a des missions police qui ont été reprises, du type escorte médicale, escorte judiciaire. Il y a des métiers pointus qui se spécialisent, les informaticiens, les moniteurs de sport, avec des vraies formations. Mmh. Et je pense sincèrement que c'est une administration dans laquelle on peut progresser, et dans laquelle on peut faire plein de choses. Maintenant, oui, c'est difficile actuellement parce que je pense qu'il y a le fond et la forme. Sur la forme, on est une administration qui est dévalorisée. Dans les médias, on dit gardien de prison, mais ce ne sont pas des gardiens de prison, ce sont des surveillants.
Ce sont des surveillants. On dit maton pour dire les choses, et je sais que vous n'aimez pas ça, mais on dit maton.
Et c'est très gênant. Moi, quand j'entends dire gardien, non, je suis désolée, ce sont des surveillants pénitentiaires. Mmh. Alors c'est vrai qu'on est un peu la grande muette, qu'on communique peu, et qu'on devrait certainement le faire un peu plus, parce que derrière ça, il y a des gens, il y a des humanités, il y a des gens qui sauvent des vies. Il y a des gens qui s'investissent dans leur métier et il y a des directeurs actuellement, des officiers qui tiennent les prisons des fois à 10, 12 personnes, 7 jours par semaine. Et on est dévalorisé. Et ça, c'est pas bien. Maintenant, prendre en otage les établissements, c'est pas la solution et c'est contraire à la mission de service public dont on est investi.
Et bien sûr, on va y venir. Vous vouliez intervenir, Youssef Bard, porte-parole du ministère de la Justice.
Oui, effectivement, je voulais rebondir sur ce qu'on vient de dire. Il y a une étude sociodémographique qui avait été faite par le ministère il y a quelques temps de ça, où on avait posé la question aux personnes qui présentaient le concours de surveillant pénitentiaire en leur disant « qu'est-ce qui vous pousse à présenter ce concours ?» Et en fait, 87% d'entre eux avaient répondu « l'évolution professionnelle ». Et en fait, ce qu'on a constaté ensuite, en creusant un peu, c'est qu'effectivement, le métier de surveillant pénitentiaire permet une évolution à la fois horizontale et verticale. Verticale, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut passer également dans les ERIS, on peut être moniteur sportif, on peut être dans la brigade cynophile, et également verticale. Et verticale, c'est-à-dire qu'on peut passer de surveillant de prison. Il y a aussi des exemples qui démontrent qu'il y a des surveillants qui ont commencé surveillant pénitentiaire et qui sont devenus également directeur d'établissement. Donc ça permet également une évolution. Et effectivement, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on parle effectivement de gardien de prison, sauf qu'en fait on ne garde pas des détenus. Personne ne garde des détenus. Au mieux on les surveille, mais il faut déjà travailler également sur le champ lexical, sur des surveillants pénitentiaires.
Et alors justement, avant qu'on retourne au standard, Christopher d'Orangeville, parce que ça faisait partie des revendications, pas forcément de la part de la CGT, mais de FO, le fameux passage de catégorie C à catégorie B, pour expliquer aux gens, catégorie de fonctionnaires, catégorie A, les cadres au-dessus, puis catégorie B, puis catégorie C, vous êtes en C. Est-ce que ça changerait quelque chose de grimper en grade, en fait? Est-ce que ça changerait vos missions? Est-ce que ça changerait la manière dont vous avez le sentiment d'être perçu?
Alors disons qu'il faut prendre le problème à l'envers, en fait. Clairement, nous, notre organisation, on est porteur de la catégorie B depuis 17 ans. Mm. Donc, en effet, au début de la mobilisation, ça c'était pas forcément inscrit directement dans la plateforme, mais dans le volet reconnaissance qui était inscrit dans la plateforme qu'on avait en commun avec l'UFAP UNSA Justice, on avait, nous, cette vision-là. Pour nous, la catégorie B doit passer avant tout par, justement, un changement de métier. Aujourd'hui, le surveillant est cantonné à ouvrir, fermer des portes. C'était un petit peu, justement, le débat des missions des personnels de surveillance. Et, justement, le fait qu'on soit cantonné à ça, aujourd'hui, ne fonctionne plus. Notre vision, aujourd'hui, c'est de changer le métier, changer les missions à laquelle on est. Il faut que le surveillant reprenne une place centrale, d'acteur central de la détention.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de missions, ça veut dire quoi, en fait?
Et il faut clairement qu'il reprenne sa place, il faut qu'il retrouve en fait sa place centrale d'acteur au sein de la détention. C'est plus le cas aujourd'hui. Le surveillant n'est plus l'acteur incontournable de la détention. Dès qu'il ouvre la porte à une personne détenue, aujourd'hui, il n'est plus en capacité de répondre à toutes les sollicitations.
Mais ça veut dire concrètement participer aux décisions qui sont prises à l'intérieur de la prison?
Voilà. C'est participer aux différentes commissions pluridisciplinaires, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup et dans nombreux établissements, en tout cas pas à sa juste valeur. C'est lui qui connaît le mieux les personnes détenues, il est au contact quotidien avec, et souvent la parole du surveillant n'est pas forcément prise en compte.
Ça, si vous me permettez de répondre, Pascal, ça c'est des choses quand même assez locales. Moi, je suis passée dans des établissements où, je suis désolée, il y avait des référents quartier arrivant, des référents quartier disciplinaire, des surveillants qui participent au CPU, dont les avis sont pris en compte.
Chez vous, à Gradignan, c'est le cas.
À Gradignan, c'est le cas sur le quartier arrivant. C'est le cas également sur les travaux de réflexion sur les quartiers disciplinaires. Je vais prendre l'exemple de Lannemezan, qui est une maison centrale. Le quartier disciplinaire, c'est les agents qui ont monté le projet, qui ont été porteurs du projet. Donc dire, résumer, fait que tous les établissements ne sont pas consultés, c'est erroné. Après, encore une fois, pour rapidement, je pense qu'il y a deux débats. Il y a les revendications ô combien légitimes sur la sécurité et sur les agressions qui, là-dessus, je suis d'accord, sont inadmissibles. Mais le statutaire, ça peut pas se gérer comme ça, ça peut pas se gérer en deux secondes. Et surtout, on ne peut pas prendre en otage les établissements pénitentiaires sur du statutaire.
Donc
ça,
un c'est temps pas raisonnable. On a bien compris, on va aller au standard. Hein. Un temps pour gérer les prisons et un temps pour gérer la crise. En gros, si je vous entends bien, Aurélie Pascal, c'est l'idée. Youssef Badr, très très vite, parce que je voudrais vraiment qu'on retourne au standard.
Vraiment très rapidement, juste dire qu'effectivement, je suis entièrement d'accord, mais juste dire que ça pose deux problèmes, à mon avis, absolument majeurs dans ce que vient de dire Monsieur Dorangeville. Premièrement, très rapidement, la ministre n'a jamais dit qu'elle était fermée. Au contraire, à une réflexion sur le métier de surveillant. Et ça rejoint exactement ce que vous dites, mais sur le statutaire, vous ne pouvez pas passer tout le monde du C au B parce que déjà ça fermerait un vivier très important. Je pense à tous les gens qui n'ont pas le bac et qui pourraient être d'excellents surveillants pénitentiaires. La deuxième chose, c'est que ça voudrait dire que nous, au ministère de la Justice, on bousculerait toutes les catégories de la fonction publique, sauf qu'en fait, on ne peut pas regarder uniquement sous le prisme du ministère de la Justice. La fonction publique, le découpement C, B et A, ça impacte toute la fonction publique.
Ce passage existe chez les gardiens de la paix.
Et je voudrais qu'on retourne, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on retourne dans le gras du sujet, si je puis dire, et dans le flot de revendications qui sont les vôtres et les problèmes qui concernent aussi les gens qui nous écoutent. Et c'est Guy qui nous appelle au 01 45 24 7000. Bienvenue sur Inter, Guy, on vous écoute.
Oui, bonsoir et merci pour la qualité de vos émissions. Mon intervention est un constat quotidiennement remarqué depuis que le feu couve dans les prisons. La température monte, deux syndicats n'ont pas signé, un syndicat a signé, mais ça n'avance pas. Moi, ma question, c'est que demain, on va se trouver dans vraisemblablement avec une arrivée de radicalisés, mais plus que ça, même d'actifs, les revenants, où est-ce qu'on va les mettre? Est-ce qu'on va les séparer de tout le reste des détenus? C'est-à-dire, ils sont quand même très dangereux par rapport, d'une part, aux gardiens auxquels je pense, et aussi vis-à-vis des autres responsables, des autres détenus. Voilà. Quelle est la solution? Je ne pense pas à un Guantanamo à la française.
Non, bah non, de toute façon, c'est pas légal.
Voilà. Mais ma question est légale.
Et on va, oui, absolument. Et on va y répondre, Guy, bien entendu. Je voudrais juste rappeler ce qui s'est passé dans la négociation de cet après-midi sur ces sujets-là, notamment. On parle au ministère de capacité d'évaluation des détenus terroristes, islamistes et radicaux, qui va être doublé cette année pour permettre d'évaluer 250 détenus par an. Et puis je vais aussi sur un autre chapitre qui parle de la capacité de prise en charge de ces détenus qui sera renforcée au-delà des 150 détenus extrêmement dangereux qui ont vocation à être placés dans des quartiers d'isolement. Est-ce qu'on en fait assez pour le gardien de prison, Christopher Dorangeville? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on saura quoi faire si on a plus de gens radicalisés qui arrivent en France?
Alors pour notre organisation en tout cas, les éléments qui composent ce relevé de conclusion sur ce volet-là, nous conviennent en l'occurrence, puisque notre organisation portait justement nous sur la peur de regrouper des détenus avec le même profil sur un même établissement. Il faut savoir que la gestion d'établissements spécifiques, donc de poudrières pour nous, clairement.
Vous n'êtes pas tous d'accord les syndicats là-dessus d'ailleurs.
Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai bien évoqué pour notre organisation. Voilà, nous. C'était pour nous une problématique. Donc clairement, les éléments qui ont été apposés sur ce point nous conviennent. Alors après, forcément, il y a toute une déclinaison qui doit être vue, surtout sur la prise en charge, par exemple, qui n'a pas forcément été détaillée et pour lesquelles on a forcément besoin de rentrer un peu plus dans les détails. Deuxième point, après, c'est sur les effectifs qui encadreront justement cette prise en charge. Au-delà de la prise en charge, donc d'évaluation, etc., il y a la prise en charge physique, la gestion quotidienne. Et donc sur ce point également, on aura besoin d'avoir plus de précision.
Aurélie Pascal, est-ce qu'ils sont mieux formés différemment, les surveillants qui s'occupent de ces unités?
Non, à mon sens, on manque encore de formation parce qu'on est encore sur des expérimentations dont on n'a pas tous les retours.
Est-ce qu'on peut rappeler aux gens, excusez-moi Aurélie Pascal, les unités dédiées qui existaient au départ, finalement l'idée n'a pas été trouvée particulièrement pertinente. Il y a ce qu'on appelle des QER, des quartiers d'évaluation de radicalisation. Oui. Vous en avez un chez vous, par exemple?
Non, on n'en a pas chez nous, mais voilà, je vous dis encore, le problème, c'est que c'est embryonnaire, on n'a pas assez de recul, il faut qu'on s'inspire d'expériences étrangères. Donc, voilà, c'est pas le besoin de formation est là. Mm-hmm. Recruter des agents supplémentaires, oui, mais comment on les emploie sur ces unités? Comment on gère ces unités? Est-ce qu'on prend un droit exorbitant pour la gestion de ces unités? C'est vraiment les questions là-dessus. Et par contre, je rejoins un monsieur. Tous les réunir dans un même endroit, c'est absolument pas la solution.
On a oublié, non, cette idée-là, non, Youssef Badr, de toute façon, l'idée de réunir tous ces détenus au même endroit.
Oui, oui.
Est-ce qu'elle est complètement abandonnée, cette idée, de fait?
Alors, je reviens rapidement sur ce qu'a dit M. Drangeville. Aujourd'hui, c'est un projet de relevé de conclusion qui a été soumis. Ce qui était difficile, et ce qui est toujours difficile, en fait, c'est que les syndicats ne sont pas d'accord entre eux. Donc, pour ce sujet qui intéresse évidemment la pénitentiaire directement et effectivement les citoyens, savoir comment est-ce qu'on traite aujourd'hui nos revenants, les gens qui sont mis en examen, incarcérés pour des infractions en lien avec des infractions terroristes ou des détenus de droit commun qui sont radicalisés, ça intéresse directement le grand public. Donc la question aujourd'hui, déjà d'une part, c'est d'essayer de savoir un peu comment est-ce qu'on se met d'accord sur quelque chose de commun pour ensuite, une fois qu'on a mis en place cet accord, qu'on puisse ensuite se réunir très rapidement, rencontrer les organisations syndicales pour ensuite décliner. Ce qui est prévu aujourd'hui, effectivement, c'est un renforcement d'une part des quartiers d'évaluation de la radicalisation. Donc ça c'est des places supplémentaires, il y a une évaluation qui est faite pendant 4 mois d'un détenu, et ensuite à l'issue de cette évaluation de 4 mois il est soit retourné en détention ordinaire, soit il est placé dans ce qu'on appelle les quartiers pour détenus violents, c'est les plus... Et ensuite, soit sinon ils sont placés à l'isolement pour ceux qui présentent un profil relativement élevé ou prosélyte. Donc 1500 places aujourd'hui dans différents établissements avec une étanchéité totale du reste de la détention et avec un renforcement d'un point de vue sécuritaire pour le personnel qui travaillera directement avec eux.
Ça veut dire que, pour répondre concrètement à la question de Guy, en l'état, pendant les 4 premiers mois, ça veut dire qu'on trouve au même endroit quelqu'un qui revient de Syrie, quelqu'un qui aurait fait une tentative d'attentat ou quelqu'un dont on sait qu'il est signalé radicalisé. Au moins dans les 4 premiers mois, c'est une sorte de tronc commun, c'est comme ça que ça se passe ?
Oui, mais avec des signalements bien particuliers, parce que le renseignement pénitentiaire s'est quand même pas mal développé. On travaille beaucoup plus en pluridisciplinarité, notamment avec les services du renseignement. Donc oui, un tronc commun, mais avec quand même une approche très individualisée dans le profil et dans la gestion de l'intéressé.
Vous avez l'impression qu'on commence à savoir faire.
On commence, mais pour le coup, on peut pas jeter la pierre. Enfin, je veux dire, il y a un début à tout. Il y a le ministère là-dessus a quand même lancé des choses très rapidement. Et voilà, donc il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui sont moins efficaces. On est un peu à tâtons, mais voilà. Après, il y aura les besoins de formation et surtout où on veut aller et comment on veut y aller.
Certainement qu'il y a des situations qui sont évidemment tellement nouvelles. Vous vouliez intervenir, Christopher d'Orangeville.
Oui, juste pour rappeler quand même que forcément, vu le nombre de détenus, donc soit radicalisés ou soit justement donc ce qu'on appelle les TIS, également, la grosse problématique qui existe, c'est qu'on n'a pas assez de place aujourd'hui dans ces quartiers d'évaluation pour pouvoir justement évaluer l'ensemble des de fait, tous ne sont pas directement inscrits dans ces dans ces quartiers d'évaluation. Donc on ne peut pas...
Est-ce que les surveillants que vous êtes ont votre mot à dire d'ailleurs? J'imagine qu'il y a des professionnels qui viennent pour évaluer ces gens dans ces quartiers-là. Est-ce que vous êtes consulté sur un détenu ou un autre? Est-ce qu'on vous demande ce que vous en pensez? Comment vous le voyez? Comment il réagit? Ou pas du tout? Ça existe?
Alors,
ou pas
hormis l'observation, qui est le travail aussi normalement premier d'un surveillant, au-delà de ça, il n'y a aucune
compétences pour évaluer ce genre de choses.
C'est au-delà de la compétence, c'est clairement après des remontées d'informations qui sont établies. Donc après, il y a des services de renseignement également qui sont là aussi pour ça. Et puis,
vous voyez un comportement par rapport aux autres détenus ou des choses comme ça?
Peut-être
que vous savez observer.
Les surveillants sont sensibilisés là-dessus. Et donc nous, on a un système de logiciel en fait, puisqu'on rencontre pas toute la journée tous les surveillants, ça serait pas possible. Donc il y a un système, un logiciel. Le surveillant met son observation, le cadre y répond, prend en considération, transmet. Donc la communication se fait sur l'observation. On a formé nos personnels à certains types d'observations, c'est-à-dire c'est ou bien regarder ce qui se passe en cellule, prendre des photos éventuellement, mais aussi s'intéresser à ce qui se passe au niveau du parloir, au niveau de la famille. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on donne à nos agents et qui pour le coup jouent le jeu et renvoient l'information.
Jean-Luc, vous nous appelez du Limousin. Bonsoir Jean-Luc, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, Bonsoir à tous. Moi, je vous appelle pour faire... moi, j'étais intervenant dans une prison, enfin, un centre de détention, parce qu'il faut l'appeler dans le Limousin, voilà, par son nom. Donc, c'est 600 places. Moi, je vous appelais pour vous dire, en fait, moi, je suis assez surpris. Alors, moi, je parle pas forcément de radicalisation, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une prison est organisée... c'est une petite ville, une prison. C'est-à-dire que moi, j'étais chef de cuisine, donc c'est organisé avec un système de cantine, un système de cuisine. Et surtout, ce qui se passe dans une prison un centre de détention comme dans lequel je travaillais, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la paix sociale. Et parce que, alors, pour défendre à la fois les surveillants et même si je suis pas forcément d'accord avec eux, il n'y a pas assez de surveillants. Donc il se passe plein de choses dans une prison, mais plein de choses et des choses que le grand public devrait être un peu au courant. Alors après, là, il y avait des discours sur la radicalisation, mais dans une prison, en fait, il y a une autre loi qui n'est pas forcément la loi de la République. C'est-à-dire qu'on peut faire rentrer au parloir. Alors je dis pas que le surveillant accepte de faire rentrer un téléphone ou du shit au parloir, mais on peut fermer entre guillemets les yeux parce que ça va nous acheter la paix sociale au bâtiment D, qui est le bâtiment des musulmans. Ça va nous permettre d'acheter un peu de paix sociale parce que les surveillants sont très peu nombreux dans les prisons, avec une recrudescence de prisonniers à surveiller, et donc ils ne peuvent pas s'en sortir. Moi, je peux vous raconter une anecdote, c'est que lors d'une extraction, parce que j'étais sur une permanence d'un week-end, donc c'est 600 détenus, on a 4 extractions médicales. Donc une extraction médicale, c'est-à-dire qu'il faut partir donc de là où j'étais vers une autre ville qui est à 80 km. Donc on part à plus les surveillants partent avec des détenus. On s'est retrouvé, on n'était plus que 6 dans l'établissement pénitentiaire. C'est-à-dire un au PCI, donc c'est le poste général, et après tout le monde essaye de faire croire qu'on est nombreux alors qu'on n'est pas nombreux. Parce qu'il n'y a personne dans les prisons pour surveiller des détenus. Donc après, on fait aussi. Alors, j'aime pas dire le mot magouille parce que c'est pas le terme, mais il y a un peu d'organisation dans la prison. C'est-à-dire qu'un surveillant est capable de dire. Alors je sais que là ils vont hurler dans le studio, mais ils sont capables de dire à un détenu, je t'arrange ta cantine pour 2 paquets de clopes. Par contre, tu me surveilles l'étage.
Effectivement, ça hurle dans le studio. Ça hurle en silence et très poliment, Jean-Luc, voilà. Mais ça hurle dans le studio.
Personne ne bouge dans l'étage parce que j'ai pas le choix.
Et on a compris ce que vous disiez, pardon, Jean-Luc.
Et en plus, il faudrait absolument que les procureurs de la République française arrêtent de mettre en prison des gens qui n'ont rien à y faire.
Alors, c'est aussi un autre problème et on va pas tout régler et en même temps ce soir, Jean-Luc. Quand même, je tourne vers vous, Christopher d'Orangeville. Est-ce que des fois, il y a quelques arrangements ici et là pour acheter la paix sociale, comme le suggère Jean-Luc?
Clairement, c'est quelque chose qui, si elle arrive, il arrive réellement à la marge. Et donc, on ne peut pas en faire une règle, comme ça a été un peu évoqué. La paix sociale, elle ne s'achète pas. C'est pas comme ça qu'on exerce. Bien loin le contraire. Alors j'ai du mal à comprendre les accusations qui ont été portées, mais ça c'est souvent les choses qui arrivent. On a pu l'entendre un peu par-ci par-là. C'est le monde clos forcément fait naître dans l'esprit y a quelques points imaginaires qui arriveraient sur le fait que les surveillants sont facilitent l'accès, je ne sais quoi. Voilà, ce n'est pas le cas. La problématique, ça a été évoqué aujourd'hui, c'est les accès justement au niveau des contacts parloirs. Donc en l'occurrence, l'article 57 qui n'autorise plus aujourd'hui les personnels de surveillance à effectuer des fouilles systématiques à la suite donc d'une rencontre parloir d'une personne détenue. Voilà, là c'est une problématique. Donc c'est pas une mauvaise gestion ou de mauvais gestes professionnels effectués par les professionnels, donc les surveillants pénitentiaires.
Est-ce mais bien justement nues, un point législatif. On parle des fouilles nues, c'est
oui.
ça
oui. D'accord, oui. Tout à fait. Okay. Mais bien un point législatif.
Qui ont été enlevés, c'est ça c'est que ça. Je comprenne.
Alors, systématiquement. Elles ont été quand même récemment très assouplies avec l'article 2 qui a amendé l'article 57.
Et vous voudriez les voir revenir en fait
Clairement, aujourd'hui on sait que le parloir est un point d'entrée central, justement des points qui ne doivent pas rentrer normalement dans l'établissement. Donc notre intérêt pour nous aujourd'hui, pour sécuriser justement nos détentions, c'est que ces fouilles puissent revenir et être systématiques.
Aurélie Pascal, vous vouliez réagir à ce que disait Luc
parce que, tout à l'heure. On est clairement dans la caricature du méchant surveillant. J'ai l'impression que je suis sur France 2 avec Yann Wax qui fait la caricature de l'administration pénitentiaire. Non, alors, puisque votre auditeur souhaite dire la réalité qui se passe dans les prisons, donc son exemple, c'est une extraction médicale un week-end, en service de nuit. Donc oui, les détenus sont fermés, donc oui, ils sont plus que 6, et la surveillance se fait. Voilà. Après, non. La cantine tabac, c'est impossible, tout simplement parce que c'est des choses qui sont contrôlées par un service comptabilité, par des comptes nominatifs. On peut pas aller voler deux paquets de bureau de tabac, deux paquets de tabac club, ouais. pour le donner aux détenus sans que ça ne se voie pas. Donc voilà, qu'il y ait de la souplesse sur je te laisserai 10 minutes de plus à la douche, oui, mais après il faut pas aller dans cette caricature-là, clairement.
On retourne au standard dans un instant. Youssef Badr, vous vouliez intervenir.
Oui, effectivement, juste souligner sur la ce que soulignait Monsieur Dorangeville sur l'article. Article 57, dans le projet de conclusion, il y a un point sur ce projet de conclusion qui a été soumis hein, depuis le départ d'ailleurs.
Qui est soumis, mais qu'est-ce qu'on en dit à la chancellerie ? Est-ce qu'on réintroduit
Ce qu'on,
réintroduit,
ce qu'on en dit en fait, c'est que si on trouve un accord sur ce projet, il y a une réflexion qui va être mise en place sur une évolution de l'article 57 et sur une réflexion sur ce qui est en train de se faire, notamment au niveau de la commission des lois qui travaille actuellement sur ce sujet-là. Donc on a dit qu'on n'était absolument pas fermé en fait. À une évolution ou à une réflexion sur l'article 57.
Je pense que c'est fondamental. Il faut arrêter de dire
c'est prévu,
que les fouilles,
hein, ça c'est
prévu. Un gros mot. Quoi. Mmh. Je veux dire, c'est quand même la première base de la sécurité et il faut pouvoir fouiller, il faut équiper les agents de moyens de contrôle. C'est vraiment
ça se fait de manière aléatoire, c'est ça, ça se faisait de manière aléatoire.
Oui, alors on a quelques assouplissements. Non, on cible quand même, il y a quand même des conditions légales qui nous permettent
de vous savez à qui vous avez affaire, vous avez
certaines personnalités. Maintenant, il y a le phénomène de ce qu'on appelle les mules, des gens qui portent pour autrui et effectivement, les fouilles, il faut arrêter de dire que c'est un gros mot. C'est de la sécurité de base et elle est fondamentale parce que il y a énormément de choses qui rentrent dans les prisons. Voilà. Ça, c'est important.
D'ailleurs, juste, vous évoquiez une mission parlementaire, hein, si, dans le document, si je ne m'abuse, pour justement ouvrir à débat cette question de l'abrogation, puisque forcément, c'est le Parlement qui doit aujourd'hui changer, si c'est le cas, et donc l'abroger, la loi. Mais vous parlez beaucoup de réflexion. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui au personnel, c'est qu'on est sur juste des réflexions.
Trop long, vous dire.
Et donc, à partir du moment où on ouvre des réflexions, on n'a pas forcément l'aboutissement de ces réflexions. D'ailleurs, l'article 57 et l'abrogation de l'article 57 faisaient déjà partie d'un précédent relevé de conclusion qui était issu de 2015 et pour lesquels les choses ont été modifiées à la marge. Alors, vous avez parlé de la réécriture, en l'occurrence, mais qui n'ont pas été pris à bras le corps par tous les directeurs d'établissement sur l'ensemble de nos établissements. Et ça, c'est en tout cas ce qui nous remonte, nous, du terrain.
Mais c'est parce que tout à l'heure, vous disiez quelque chose de très juste. Madame, c'est qu'elle disait qu'en fait, sur des sujets aussi centraux que ceux-là, et notamment qui rentrent en point de choc avec le droit des détenus, en fait, aussi, qui fait qu'en fait, on ne peut pas non plus légiférer dans l'urgence et proposer directement aux différentes organisations syndicales l'écriture d'un article autour d'une table de négociation. C'est quelque chose qui est absolument fondamental et qui mérite qu'on se pose tranquillement et qu'on réfléchisse pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse concilier à la fois l'intérêt des surveillants pénitentiaires et également les détenus. Parce qu'on oublie quand même qu'il y a des détenus aussi, qu'il y a des droits aussi.
On n'oublie pas qu'il y a des détenus.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, en fait, on nous dit il faut absolument, c'est des réflexions, ça nous convient pas. D'accord, mais en fait, on peut pas l'écrire à la va-vite, en fait, cet article. On peut pas le réécrire à la va-vite. Je voudrais juste, je suis désolé, c'est très important.
Allez-y.
Juste souligner quelque chose qui me paraît fondamental dans la question de l'auditeur, là.
Jean-Luc.
Jean-Luc, il posait une question aussi, en fait, en réalité, sur population carcérale. Mmh. C'est-à-dire, comment on fait sur une astreinte de week-end avec des surveillants pénitentiaires qui se retrouvent effectivement à effectif moindre avec un personnel en détention qui est toujours le même. Il faut savoir, c'est que indépendamment de ce projet de relevé de conclusion, parce que c'est très important, il y a quelque chose qu'on a un peu forcément mis de côté là actuellement, qui s'appelle les consultations dans le cadre des chantiers de la justice. Je vous donne un chiffre qui est assez révélateur. On a dans les consultations, dans les propositions qui ont été faites à la ministre de la Justice, une mesure qui consiste à aménager ou mettre sous bracelet électronique toutes les personnes condamnées à une peine inférieure à 6 mois d'emprisonnement. Je vous dis juste qu'au 1er janvier 2017, il y avait dans les prisons françaises 10 692 personnes qui purgeaient une peine inférieure à 6 mois d'emprisonnement. Donc si cette mesure venait à voir le jour, ce serait quand même une avancée majeure en termes de surpopulation carcérale.
Mais sur les courtes peines, on rentre là dans un débat qui pour nous est essentiel, clairement. Aujourd'hui, nos établissements sont surencombrés, et surtout nos maisons d'arrêt, par des détenus de très courtes peines. Donc si derrière, on peut mettre en œuvre justement une politique pénale plus ambitieuse, donc en l'occurrence avec des aménagements de peine ou des alternatives à la carcération qui viendraient justement, alors pas vider nos prisons, mais ôter au moins une partie de cette surpopulation pénale, ça nous permettrait de reconcentrer toutes nos forces sur les détenus les plus difficiles. Donc sur ce point, nous, c'est pas une problématique en soi.
Mais la ministre de la Justice est à 10 000 fois d'accord avec vous, en fait. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En fait.
Et il y a beaucoup de questions au 01 45 24 7000, justement, autour de tous ces sujets. Comment ça se passe ailleurs ? Alain est là. Bonsoir, Alain.
Oui, bonsoir. Donc Alain de Tournefeuille. Donc effectivement, je sais qu'aux Pays-Bas, la population carcérale est moins encombrée. Alors, je propose que vous organisiez une mission d'information. Et je sais aussi que dans l'histoire de France, je ne connais pas les périodes, mais il y a eu deux périodes où il y avait à la fois plus faible criminalité et plus faible population carcérale. Certes, il n'y avait pas le problème de l'islamisme à l'époque. Mmh.
Merci pour votre question, Alain. Vous parlez des Pays-Bas. Avant que vous répondiez, je voudrais qu'on aille parler à Claude, qui est à Paris. Bonsoir, Claude.
Bonsoir, merci de prendre ma question. Eh ben, d'abord, j'ai une petite opposition à faire aux surveillants qui parlent de 8 détenus pour un détenu extrait. Moi, je peux vous le dire, j'en ai été personnellement l'objet. J'ai dû passer un examen au Centre National du Cinéma avec 32 surveillants d'escorte pour toute la journée. Et j'étais à 2 mois de ma sortie et ma permission avait été refusée. Voilà ma première objection que je fais pour le nombre de surveillants qui sont mis à des tâches totalement inutiles. Ma deuxième question est celle-ci. Pourquoi, comme au Danemark, en Finlande, en Suède, n'y a-t-il pas les officiers parole, qui sont des surveillants qui sont promus à la surveillance extérieure, qui s'occupent des détenus sortants avant et après, ils les aident et socialement, psychologiquement, ils les font loger, ils surveillent leur travail, ils vérifient s'ils font leur traitement, par exemple, voilà. D'autre part, il y a des cours obligatoires civiques, qui joue dans l'attribution des grâces. Il y a des cours culturels aussi et il y a des obligations de travail. Et un détenu en Suède ne peut pas sortir s'il n'a pas un studio loué 6 mois d'avance. Et voilà pourquoi dans ces pays, la délinquance s'effondre. Il n'y a pas. D'autre part, en ce qui concerne les radicalistes, ça existe là-bas aussi, ils sont dans l'obligation, s'ils veulent obtenir des grâces, de suivre des cours d'histoire, de religion comparée, de démocratie, et ainsi, on arrive à en déradicaliser beaucoup plus qu'en France.
Merci Claude pour votre question. Donc Alain nous parlait des Pays-Bas, Claude nous parle de la Norvège, de la Suède, du Canada. Est-ce qu'on est en retard finalement, Aurélie Pascal? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire?
Moi, je connais le système norvégien, j'ai pu aller visiter des prisons en Norvège. Effectivement, le système n'est pas du tout le même, puisque dans le système norvégien, en détention, il y a un surveillant pour 3-4 détenus maximum, avec des unités de vie complètement différentes en fonction de la dangerosité de l'individu. Et milieu fermé, il n'y a pas de conseiller d'insertion de probation, c'est le surveillant qui assure cette mission. Mais pour ça, il faut rappeler que dans les pays scandinaves, quand même, le taux de population pénale par habitant n'est absolument pas la même. Il y a beaucoup moins de détenus, et pour le coup, il y a plus de personnel. Donc, pour ça, ça...
Bah donc c'est la clé, moins de détenus, plus de personnel.
Voilà, c'est à un moment donné, c'est complètement réformer le système, avoir les moyens financiers de le faire, avoir un certain courage politique. Parce que les conditions de détention en Norvège ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Donc à un moment donné, il va falloir que,
Les prisons sont
le
comment,
pouvoir
sont...
dise au public, et il n'est pas sûr que ça soit bien reçu par le public, qu'on va mettre des millions dans les prisons pour des ordinateurs Apple, pour des conditions de confort. Et je ne suis pas sûr que le public réagisse de manière satisfaite de ça. Mais ça a un coût et ça demande un courage politique.
C'est important ce que dit Aurélie Pascal, en effet, si on met de l'argent dans une prison, parce qu'on les entend, allons-y, comment ça les détenus ont la télévision, comment ça les détenus, etc., etc., sont des choses qu'on entend. Est-ce qu'on regarde comment ça se passe à l'étranger, Youssef Bard?
Oui, bien sûr. Bien sûr, on regarde comment ça se passe à l'étranger, on regarde également, et notamment tous les sujets qu'il y a eu autour de la question salariale, des surveillants pénitentiaires en France, on regarde effectivement où est-ce qu'on se situe par rapport aux pays étrangers. Juste sur les conditions de détention, effectivement, sur l'argent qu'on peut mettre, bon, il y a quand même un plan prison qui est porté par la ministre de la Justice.
Mais allons-y franchement, est-ce qu'on n'ose pas, est-ce qu'on se dit parfois, on va pas refaire une prison flambant neuve avec ordinateur, etc., parce que politiquement ce sera compliqué. Est-ce que ça rentre dans la conversation?
Mais c'est pas prisons flambant neuve, on en fait. Mais quelle prison et comment on la structure?
Avec du matériel, vous avez raison, je reformule, avec du matériel à l'intérieur.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, en début de mois, on a parlé beaucoup du téléphone en détention. On nous a tous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée?
Un téléphone fixe dans les cellules.
Voilà. Alors, on a expliqué qu'effectivement, c'était moins de passages avec les surveillants qui accompagnaient les détenus, que c'était pas possible, que certains ont comparé notamment la détention quasiment au Club Med. Ce sont les termes qui ont été employés. Et en fait, ce que je me disais, c'est que ça porte deux réflexions. La première, c'est le regard qu'on porte sur le détenu en France. Et deuxièmement, en fait, finalement, le regard qu'on porte également sur le surveillant pénitentiaire. Parce qu'en fait, on oublie tout le temps qu'en fait, le surveillant pénitentiaire, en fait, il accompagne le détenu. Il est là pour lui, effectivement. Alors, on dit aujourd'hui, il ouvre, il ferme des portes. Mais en fait, il est là pour le détenu. Et ça pose cette question. La question de dire, est-ce que ça va bien être accepté? Il y a un plan prison. On connaît l'état de situation aujourd'hui de nos prisons en France. Il est porté par la ministre. Et il y a des établissements qui vont sortir de terre, très clairement, là, dans les prochains mois.
La fameuse 10 000 places dont on parler pendant la campagne.
Mais je pense qu'il faut effectivement en le faire, et c'est ce qui est fait en fait, et c'est ce qui va être fait, parce que si on améliore la condition du détenu, on améliore de toute manière de facto la condition des surveillants pénitentiaires qui travaillent au quotidien, tout en travaillant sur le levier à la fois des aménagements de peine. Je pense que les deux sont liés, c'est fondamental.
Christopher d'Orangeville, vous vouliez intervenir?
Oui, enfin, juste sur un point, parce que la grosse problématique également, et on parlait donc du plan de construction, c'est la taille des établissements. Aujourd'hui, on construit des usines carcérales, c'est clairement ça, hein, des 600, 700 places, 800 places. Et ce sont des établissements pour lesquels, lorsqu'on exerce, le surveillant se sent beaucoup plus isolé. L'action de réinsertion qui pourrait être le nôtre, hein, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est quelque chose d'important pour nous, en tout cas à la CGT pénitentiaire, et on n'a pas forcément la possibilité, au vu des différentes structures, de pouvoir l'exercer. Donc je pense qu'il y a réellement une réflexion à porter sur la construction en fait, et sur les plans de construction avec des plus petits établissements qui nous permettraient justement d'être encore plus au centre de ces réflexions.
Voilà. Il nous reste moins de 3 minutes, je voudrais qu'on écoute Cédric. Bonsoir Cédric, soyez le bienvenu.
Bonsoir Cédric, ancien travailleur social en détention et ancien permanent syndical. Cette problématique que j'ai connue il y a 20 ans, elle est récurrente à l'administration pénitentiaire, elle revient très régulièrement sur population carcérale, mal-être des détenus et des personnels de surveillance. Je crois que pour faire évoluer le métier, c'est une véritable révolution culturelle du métier de surveillant qui doit accepter de porter non pas seulement la mission de sécurité, mais également la mission d'insertion. En tant que travailleur social, certains surveillants, beaucoup trop à mon avis, me qualifiaient comme le copain des voyous, alors que je ne faisais que mener ma mission d'insertion, d'amendement de la personne et de prévention de la récidive. Cette humanisation du métier de surveillant, dans son intérêt et dans celui du détenu, elle passe par porter à part égale la mission d'insertion et la mission de sécurité, et notamment à travers le partage d'activités à vocation humanitaire, et que le surveillant soit dans le savoir-faire et le savoir-être et le faire avec le détenu, des activités de yoga, des activités d'insertion, des activités sportives, que ce soit vu comme bénéfique pour tout le monde. Il y a des expériences qui ont été menées en Inde notamment. Il faut réhumaniser le métier de surveillant, qu'il ne soit pas là pour subir une peine à un détenu.
Cédric, merci beaucoup. Pardon de vous presser parce que l'heure tourne, il ne reste qu'une poignée de secondes et ce sera presque la conclusion. Insertion, sécurité sont deux choses qui ne peuvent pas aller différemment, Aurélie Pascal, l'un sans l'autre.
Non, il faut avoir toujours un équilibre entre sécurité, droit des détenus. On peut pas aller dans le tout sécuritaire, mais on peut pas non plus aller dans le tout réinsertion parce qu'on arrive à des crises comme ça. Après, moi, ce que je dirais pour conclure, on regrette quand même que les personnels de terrain, notamment les directeurs, soient pas plus présents dans les instances centrales, qu'il n'y ait plus de conseillers pénitentiaires aux gardes des Sceaux, parce que on a des propositions à faire et on a nos expériences de terrain pour apporter des réponses, notamment aux conflits qu'on rencontre actuellement.
Et très vite, en une seconde, les négociations continuent. Même si aujourd'hui on ne s'est pas mis d'accord, mais les négociations elles continuent. Je vous regarde, Christopher d'Orangeville, pour la CGT.
Nous sommes toujours ouverts à discuter forcément avec des interlocuteurs. Alors après, on l'a évoqué, hein, on souhaite nous un médiateur du gouvernement pour qu'il puisse reprendre les discussions, puisque aujourd'hui ces discussions sont interrompues.
On continue.
Oui, juste vous dire que il y a 10 ans, j'ai dans mon parcours de magistrat, je suis à la maison d'arrêt de Villepinte. Ce que me disaient les surveillants pénitentiaires, c'est qu'ils avaient besoin d'écoute. J'ai le sentiment, et je le vois tous les jours, que la mise en justice les écoute, elle les a reçus et que les propositions vont dans le bon sens.
Et le sujet n'est pas fini, les négociations, on l'a entendu, elles continuent. Vous avez entendu les bips sur France Inter.